Dans cette vidéo, je vais vous présenter le modèle de persuasion ELM créé par Petit et Cacioppo. Mais d'abord, je vais vous parler de la persuasion plus généralement. La persuasion est définie comme le fait d'amener quelqu'un à faire ou à penser quelque chose. La persuasion fonctionne sur le principe suivant: un émetteur envoie un message vers un récepteur. Et le but final de cet envoi et de changer soit les croyances ou les émotions, les comportements ou les attitudes du récepteur. Par exemple, dans le cadre d'une publicité, un créateur envoie un message du type "Achetez mon produit" au lecteur ou au spectateur si c'est à la télé. Et le but final, du coup, est de changer le comportement du destinataire pour qu'il achète le produit présent dans la publicité. La persuasion est étudiée par plusieurs domaines différents, comme les sciences de la communication, ou la psychologie, qui s'attarde surtout aux mécanismes qui sous-tendent la persuasion, ou le marketing aussi. Il y a d'autres domaines qui s'y attardent aujourd'hui, comme les neurosciences. Mais le plus important, donc, c'est que toutes ces branches se focalisent sur une mesure principale de la persuasion, c'est le changement d'attitude. Il y a plusieurs modèles qui découlent de ces recherches, comme le modèle de la réponse cognitive, ou le Reception Yielding Framework, ou celui qui nous intéresse, le modèle ELM. Le modèle ELM, ou Elaboration Likelihood Model, qui est ce qu'on appelle en français le modèle de probabilité d'élaboration, a été créé par Petit et Cacioppo. Le principe de ce modèle, c'est que c'est une synthèse de plusieurs modèles différents, comme celui de la réponse cognitive ou le modèle de Greenwald. L'élément principal de ce modèle, c'est le postulat qu'il y a deux voies pour la persuasion. Il y en a une qui est centrale et l'autre qui est périphérique. La voie centrale, elle est basée sur le fond du message, donc les arguments. Elle nécessite une réflexion de la part du récepteur et elle va provoquer un changement donc central d'attitude de la part du récepteur. Ce qui veut dire que ce changement sera stable dans le temps, il sera résistant au changement et à une contre-argumentation, par exemple, et il aura aussi un impact important sur les comportements du récepteur, vu qu'il va nous permettre de prédire en fait les comportements du récepteur. La voie périphérique, quant à elle, elle est basée sur la forme de l'argumentation, par exemple si la source elle est sincère ou si elle est crédible ou attractive, mais aussi sur d'autres éléments plus généraux comme dans une publicité, la musique, si elle est plaisante, par exemple. Cette voie, elle va aussi provoquer un changement d'attitude, mais il sera moins stable dans le temps. Il sera aussi très peu résistant à la contre-persuasion, et il aura un impact plutôt faible sur les comportements finaux. Petit et Cacioppo, ils ont schématisé l'impact de la persuasion et les deux voies de la persuasion de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a un message persuasif qui est envoyé au récepteur de l'information. Ce récepteur, il va traiter cette information. Si, par exemple, on prend la voie centrale de la persuasion, il y a une première question à se poser, c'est est-ce que le récepteur est motivé à traiter l'information? Par exemple, si vous voyez un panneau publicitaire pendant que vous roulez, vous êtes plutôt peu motivé à traiter l'information, normalement, vu que vous êtes focalisé sur la route. Si la personne elle est motivée, il y a la question de savoir si elle est capable de traiter cette information. Il n'y a pas qu'une histoire d'intelligence derrière ça, il y a aussi une histoire de contexte. Par exemple, si vous êtes stressé ou vous serez moins capable de traiter l'information. Si la personne est capable de traiter l'information, on peut aussi se demander la nature de ses pensées initiales par rapport à l'objet du message. En gros, quelle opinion la personne a du produit, donc si elle est positive ou négative. Et finalement, on peut se poser la question de si les changements sont stockés dans la mémoire. S'ils sont stockés dans la mémoire, alors il y a un changement central de ses attitudes par rapport à l'objet du message, donc on a une persuasion qui aura suivi la voie centrale et un changement d'attitude centrale. Si on regarde le schéma, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule manière de créer un changement central des attitudes du récepteur, mais par contre, il y a plusieurs manières de générer un changement périphérique. Par exemple, si la personne n'est pas motivée à traiter l'information, ou si elle n'est pas capable de le faire, si le contexte l'empêche de le faire, ou si elle a des pensées plutôt neutres par rapport au message, alors la personne va plutôt se focaliser sur des éléments périphériques. Il y aura la question de s'il existe des éléments périphériques au message. Alors s'il y a des éléments périphériques, comme une source attractive, ou par exemple dans le cadre d'une publicité, la présence d'une célébrité ou d'une musique agréable, par exemple, alors il y aura un changement périphérique des attitudes du récepteur. Donc un changement qui existe, mais qui n'est pas forcément très solide ou très stable. Et puis finalement, s'il n'y a pas d'éléments périphériques, alors c'est un échec dans la tentative de persuasion. Si on résume rapidement ce que je viens de présenter, on peut voir donc que la persuasion correspond à la transmission d'un message de la part d'un émetteur vers un récepteur pour que le récepteur change ses attitudes ou ses comportements. Il y a plusieurs champs de recherche qui tentent de modéliser le processus et se focalisent principalement sur le changement d'attitude. Le modèle ELM, c'est un modèle qui synthétise plusieurs de ces modèles qui l'ont précédé, et il part du principe qu'il y a donc deux voies vers la persuasion, l'une qui est centrale et qui est basée sur l'argumentation et la qualité des arguments, qui va générer un changement d'attitude profond, et l'autre qui est de la voie périphérique, qui est centrée sur la forme du message et qui aura un impact plus léger sur le changement d'attitude. Comme on a pu voir dans le schéma du modèle ELM, on peut voir qu'il se base sur plusieurs éléments de la part du récepteur, comme par exemple sa motivation à traiter l'information, sa capacité à le faire, ses pensées initiales par rapport à l'objet du message, et puis finalement si les éléments sont stockés dans la mémoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo.